à travailler, c'est du sérieux. Et c'est une réunion du regroupement des opérateurs de registres génériques dans l'ICANN, et je crois que vous savez que je suis Steve Crocker, président du directoire, et David Mayer va donc être à la tête de la réunion cet après-midi. Notre rôle, c'est d'avoir un dialogue, et j'aimerais que vous parliez plus que nous. On va voir comment ça se passe. Nous avons pas mal de membres du conseil d'administration dans le premier rang et le deuxième rang de l'auditoire. Voyons un petit peu. Avec Rod Beckstrom, nous représentons donc le directoire. Qui sont les autres membres du directoire présents? Ils peuvent lever. Donc, la main Bruce, oui. Vous aurez sûrement la possibilité de prendre la parole et vous pouvez venir sur place. Bruce Tompkins, vice-président à la tête de la gouvernance, commission de gouvernance du directoire. Donc, nous avons plusieurs thèmes que nous allons couvrir cet après-midi. Des thèmes suggérés par le groupe des parties prenantes, les conflits d'intérêts et IBIRO. Je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça, le EBRO? Les opérateurs de registre, oui, pour les opérateurs de registre en cas d'urgence, oui. Donc, les économies en développement, le programme de soutien, DESP, je ne sais pas si ça veut dire désespéré. Non, ça, c'est jazz. Donc, ligne de conduite concernant la déontologie, les registres, le rôle par rapport aux registrants, le rôle des noms de domaine qui étaient illégaux, qui ont été retirés, le travail avec les forces de l'ordre qui font respecter la loi sur l'Internet, rapport JAS, un suivi sur le rapport JAS, bien entendu, nouveau PDG, recherche d'un nouveau PDG. À ce moment-là, Rod Beckstrom quittera la salle lorsque l'on parlera de son remplaçant. Et donc, je donne la parole à David. Oui, premier thème que nous avons mis sur la liste. Le problème de contrat pour les nouveaux GTDLD, notamment plusieurs propriétaires croisés, les problèmes de EBRO et des instruments pour le fonctionnement. Donc, nous inquiétons tout particulièrement de ces problèmes que nous percevons comme étant éventuellement un handicap, un manque d'équité par rapport au registre qui pourrait être intéressé par un dépôt de candidature, et nous ne sommes toujours pas certains de l'impact que plusieurs propriétaires, d'avoir un multi-propriétaire, quel impact que cela pourrait avoir sur les régulations, sur les lois antitrust des États-Unis. Ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et si nous ne sommes pas sûrs de l'utilisation de ces règlements, eh bien, cela pose un handicap au processus de dépôt de dossiers de demande et de candidature. Il y a des propositions actuelles qui demandent donc un dépôt d'art important avec des lettres de crédit éventuelles pour assurer donc ces noms de domaine. Ça aussi, c'est un handicap au processus de dépôt de dossiers de demande. Et ça, ce n'est pas seulement un handicap pour les registres, mais également pour les nouveaux candidats qui vont devoir trouver des sommes très conséquentes. Donc, nous sommes conscients que tous ces thèmes devront être couverts. Et je ne sais pas si le board et le directoire veut commenter dès aujourd'hui, dès maintenant, à ce sujet-là, puisque nous aurons d'autres réunions jeudi matin couvrant ces thèmes. La proposition jazz nous inquiète un petit peu, nous préoccupe. On a peur que l'on subventionne des applications rentrant en concurrence avec les sommes demandées pour les dossiers de candidature des GTDLD. Donc, c'est une question sur laquelle nous devons nous pencher. La CAN sera facilitateur de ce processus et nous devrons nous assurer qu'il n'y ait pas d'argent de prix du budget de la CAN à ce sujet. Je crois que nous avons le vice-président du GNSO qui est Jeff Newman et qui est présent et qui va s'exprimer. Oui, en ce qui concerne plusieurs propriétaires pour un GTDLD, on en a parlé ce matin avec John et avec Dan, Kirk et d'autres membres du personnel de l'ICANN. Et je crois que on comprend bien que les inquiétudes sont réelles. On a besoin d'avoir un dialogue avec le personnel, avec les lois antitrust d'Europe et des États-Unis. Nous devons voir ce que disent les régulateurs et nous pensons que avant que des registres puissent inscrire des noms et déposer des dossiers de candidature à plusieurs, cela va donc retarder peut-être un peu leur processus. On a déjà eu ces débats auparavant. Ça a pris du temps entre Singapour et cette réunion pour avoir des réponses, avoir plus d'informations, recevoir plus d'informations. Le personnel de la CAN va publier une notice dans les jours à venir à ce sujet sur le statut des débats avec les autorités réglant les lois antitrust et de la concurrence. Et je crois que les réponses que vous allez obtenir ne vont pas être très claires. Ça ne va pas être un oui ou un non. Ça va être un point de vue juridique de discuter. Donc, ça va être au cas par cas que ça va être déterminé, j'en suis sûr. Mais ceci dit, la question que nous posons, c'est quels sont les conseils dont a besoin le directoire pour prendre des décisions à ce sujet. Donc, dans quel sens doit s'orienter le débat et la décision. Donc, il y a plusieurs thèmes qui s'entremêlent un petit peu à ce niveau. Oui, en ce qui concerne l'instrument COI, des opérations se poursuivant en continu, c'est un instrument, donc, COI. Et il y a actuellement un RFI qui est sorti pour les opérateurs en cas d'urgence, et cela va donc sortir au mois de novembre, et on attend les réponses, on attend la date pour la date limite, la date butoir pour obtenir les réponses. Ça doit être 40 ou 42 jours plus tard. Est-ce que cela représente assez de temps pour les candidats et pour ces instruments? Donc, pour vous le faire savoir, pour vous expliquer un petit peu cela, si vous êtes un opérateur, on s'est posé la question plusieurs fois, c'est vraiment important, c'est la question la plus fréquente qui est posée. Donc, les opérateurs sont très inquiets à ce sujet. Combien de fonds doivent-ils mettre de côté? Comment est-ce que ça va être utilisé? Est-ce que ça va être des arts? Est-ce que ça va financer la sécurité et la stabilité du GTDLD? Donc, vous avez un COI qui est nécessaire en cas d'urgence. Donc, il faut que le nom de domaine soit stable et soit toujours en ligne. Et on a besoin d'une infrastructure de toute façon pour assurer la sécurité de cela. Donc, on a plusieurs points de vue qui sont donc pas du tout les mêmes, qui sont opposés. Et je veux m'assurer de bien comprendre que ces fonds mis de côté pour le COI, ça risque d'augmenter les risques de défaut et de problèmes. Donc, je crois qu'on a besoin de tester les systèmes. Je crois que c'est, il y a d'autres méthodes plus efficaces de tester les systèmes, je crois. Donc, c'était une plaisanterie. Désolé. Donc, je poursuis, à moins que vous ayez des questions. Le sujet suivant que j'ai sur la liste, question d'éthique et de déontologie. Je crois que les groupes, les parties prenantes, a eu la possibilité de s'exprimer un petit peu déjà à ce sujet. Je crois qu'on veut adopter des règles d'éthique plus précises, plus strictes à l'ICANN, puisque beaucoup de gouvernements, beaucoup d'entités administratives et entreprises d'ailleurs essayent d'éviter donc l'aspect porte-battante qui existe, par exemple dans certains conseils d'administration. Je crois qu'on a besoin de règles plus strictes, plus écrites, plus précises.
Merci. Oups. Quand il s'agit du conflit d'intérêts au niveau de la discussion sur la déontologie, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des politiques qui existent déjà. Nous avons une politique qui s'appelle le conflit d'intérêts. Nous avons aussi un document qui... un code de conduite. Ces deux-là doivent être... sont pas faciles à trouver. Il faut qu'on les rende plus faciles à trouver. Donc, pour vous donner une idée, le code que nous avons aujourd'hui, chaque liaison de directeur doit être tenue à un code de conduite très éthique. Le nom de ICANN dépend de comment les membres du directoire conduisent leur business, de quelle manière ils le font, et de la façon que le public le perçoit. Et tous doivent s'adopter les mêmes principes et avoir des responsabilités. Et comme vous pouvez lire ça... en ayant dit cela, en tant que ICANN a de plus en plus de responsabilités, nous voyons bien, nous réalisons qu'il est temps de réviser ces politiques de conflit et toutes ces politiques de déontologie. Pour faire cela, nous allons avoir des conseillers externes qui vont venir nous aider, qui vont regarder toutes ces politiques donc qui sont en place. On a parlé de ces organisations tout à l'heure. J'ai demandé au CCTLD tout à l'heure combien d'entre elles, de ces politiques, je pense qu'il y en a une dizaine. Je pense qu'il y en a d'autres à considérer aussi. Ce qu'on propose, c'est de faire des mises à jour sur certaines des politiques en ayant l'opinion du public et des experts. Et ensuite, nous allons prendre des informations du public à ce sujet. On en parlera jeudi entre 14h et 15h30. Notre personnel pourra vous donner un peu une idée de la mise à jour, de qui va nous donner des experts qui vont nous donner des conseils à l'avenir. Dans les quelques mois à venir, nous mettrons donc ces politiques révisées, nous les apporterons les publier pour vos commentaires. Nous nous attendons à participer dans ces procédés. C'est Keith Tracek. Je fais partie du groupe aussi. Donc, Can't Stop est au téléphone et voudrait être reconnu pour pouvoir parler de la question COI et pour discuter le rapport du groupe de travail Jazz. Allons-y. On n'entend pas. Nous n'entendons pas Ken. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant. Allez-y. Oui, merci. Merci beaucoup. J'ai deux ou trois problèmes dont je voudrais parler au COI. Quand il s'agit du jazz, je sais qu'on va encore passer sur le jazz. J'ai passé beaucoup de temps, même si je suis à distance, à écouter les séances. Et il me semble que ce que les groupes de travail ont décidé, que les procédés des actions sur toutes les chaînes on va être publié pour les candidats, comme ils les appellent. Ça m'inquiète parce qu'en revenant sur les discussions du directoire initial, quand on parlait des processus, les fonctions de ces processus devaient être utilisées pour améliorer la mission principale de ICANN, qui était donc la stabilité et la sécurité. Et moi, j'ai peur que l'argent qui pourrait être utilisé pour l'éducation pour les DNSSEC et l'amélioration de la sécurité et les stabilités, l'Internet grandit à travers le monde et que le nombre de noms et de résolutions augmente, cet argent pourrait être déraillé et utilisé pour d'autres buts. Et aussi, l'autre chose qui m'inquiète, c'est les requêtes des COI, des requêtes pour le COI, pour qu'ils attendent qu'elle doit être arrêtée, qu'elle doit être supprimée pour les applicants. Mon argument, c'est que il y aurait une grosse probabilité que ces gens pourraient avoir des problèmes pour aller de l'avant. Donc, ça pourrait arrêter les fonds, ça pourrait empêcher les fonds en premier et en deuxième. Ça pourrait en effet représenter des problèmes pour le transfert, pour re-remplir ces fonds pour les applicants futurs. Je pense qu'on devrait avoir une approche plus équitable de la part du directoire. Avec l'argent, tout cet argent qu'ils vont pouvoir recevoir de ces enchères, de ces auctions, de ces enchères. Les dernières trois réunions de ICANN, on en a discuté, on n'a toujours pas de réponse. Bonjour, c'est Bertrand de la Chapelle. Je voudrais revenir brièvement sur la notion de conflit d'intérêts et de ces politiques. Il y a une distinction, je ne vais pas entrer dans les détails, entre le conflit d'intérêts et la question de porte-battante. Pendant le temps au directoire et après son temps au directoire. Comme vous savez, le défi, du moment où on a des gens qui sont sur le directoire, au directoire, et qui sont actifs dans la communauté et d'une façon légitime, c'est une drôle de situation quand ils partent du directoire, qu'ils ne retournent pas dans les activités qu'ils avaient au préalable, avant leur participation au directoire. Donc cette politique de porte battante est un peu difficile et délicate. La deuxième chose, et on étudie ça, comme David l'a dit aussi, une des points de référence en termes de conflit d'intérêts de ces politiques-là, et moi j'en suis heureux parce que c'est un point que j'ai soulevé au directoire et qui a vraiment été pris en compte. Je suis content aussi que vous avez fait référence aux entités administratives, les agences, les régulateurs de toutes sortes, parce qu'ils sont significatif. Il y a des leçons significatives que l'on peut tirer de ça. Ce qui m'amène à mon point final que je voulais partager avec vous. En pensant que la nature quasi régulatoire de certaines de ces activités d'ICANN, et je fais très attention au terme, je sais que le mot régulatoire est difficile à dire. Mais donc, dans ce contexte, dans le contexte de ce programme, de ce nouveau programme, est-ce qu'on ne devrait pas pousser la logique à l'extrême et mettre au-dessus toute la dépendance des membres du directoire et considérer que les membres du directoire seraient complètement indépendants durant leur temps au directoire, comme les gens, par exemple, dans d'autres agences aux agences régulatoires et donc avec une politique de porte-battante. Donc après, il faudrait pousser donc ces logiques à l'extrême. C'est aussi une question sur l'évolution du modèle multiparti. Dans quelle étendue, dans quelle mesure on aurait un problème de quorum sur certaines des décisions du directoire? Les problèmes d'examiner l'indépendance, les positions d'indépendance d'une façon ou d'une autre. Ce problème-là va s'élargir, va s'agrandir. Est-ce qu'on devrait prendre en compte dans ces discussions le modèle d'un bureau d'un directeur indépendant où les gens désignés feraient donc un choix de carrière de ne plus faire ce qu'ils faisaient avant, comme quand vous prenez un poste dans l'administration publique, disons. Alors, comme je vous l'ai dit, ce groupe de registre n'est pas en position de donner une position complètement terminée sur ce sujet, complètement définie. Il me semble que l'isolation extrême d'un membre du bureau du directoire ne marcherait pas, ne fonctionnerait pas. ICANN est une institution unique, mais est aussi régulatoire, quasi-régulatoire. Et donc, ce style de modèle, de mon expérience personnelle, en tant qu'administrateur, je suis d'accord avec David, avec sa position. Je pense aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres réunions, la nature du directoire de la CAN est diverse. Les gens rentrent, partent. Ce qui est important, c'est leur conduite durant leur temps au directoire. Et dans trois aspects, il faut participer aux discussions, et dans ces cas-là, aux décisions qui sont prises, il ne devrait y avoir de conflit. Et aussi, dans leur conduite, ils doivent suivre des standards, des normes déontologiques. Et aussi, ils doivent garder la confidentialité. Ils doivent s'assurer qu'ils restent confidentiels. Et quand ils parlent du directoire, qu'ils agissent confidentiellement avec l'information qu'ils ont obtenue. Et après, s'ils se sont conduits d'une bonne manière durant leur temps directoire, ce qu'ils font après, je ne pense pas que ce serait quelque chose qui devrait nous concerner personnellement. Je pense qu'on ne devrait pas être terriblement concerné par cela. S'ils ne se comportent pas bien, s'ils n'adhèrent pas à ces grandes lignes durant leur terme, alors là, oui, je pense que là, il y aura un problème. Donc, on doit régler les problèmes qu'il y a durant le temps où ils sont au directoire. Je pense que Jonathan peut faire un commentaire là-dessus. Quand on parle de propriété croisée, on en a parlé ce matin, le délai est important. C'est important qu'il faut reconnaître que la résolution de ce problème n'est pas potentiellement d'une façon commerciale, n'est pas utile. Ce sont des matières qui sont de nature stratégique, elles ont besoin d'être planifiées, organisées. Ils doivent penser à leur position sur le marché en respect des nouveaux GTLD, les futurs GTLD, TLD et les futurs nouveaux TLD et les TLD qu'ils opèrent couramment. J'encourage que, comme vous pouvez, que vous pourrez répondre aux contraintes de tout cela, ces problèmes qui sont clairement avec les autorités de concurrence à travers le monde. C'est important que nous réglions ces problèmes assez vite. C'est la première chose sur la propriété croisée. Donc, quand il s'agit des instruments d'opération continue, c'est intéressant. Je pense que si la structure courante, je réalise, doit être discutée un peu plus longtemps. Je voudrais que parler de la situation courante, c'est l'impact sur le capital de travail, de business, de ce qui va émerger dans l'opération des nouveaux GTLD. La proposition alterne est vraiment dure pour le capital opérationnel que nous avons. Donc, si vous prenez en termes de business, c'est un impact sur notre capital financier. Ça pourrait mettre en danger les fonctions de ce business. En fait, il y a un lien avec le Jazz ici, parce qu'à Jazz, il y a une proposition pour réduire l'instrument de pour Jazz, et cette proposition sur la table. Et franchement, je ne pense pas que tous les dots se sont joints dans ce respect, mais si on peut compter sur une proposition qui pourrait être adoptée d'une façon ou d'une autre et qui pourra adresser ce problème, parce que maintenant réduire les requêtes des applicants de Jazz, ils auront leur COI réduit. Donc, potentiellement, ils sont plus vulnérables. Ce sont des opérateurs de registre, des entités plus vulnérables. Donc, réduire leur COI n'est pas nécessaire et constructif dans ce contexte de stabilité qui est le nôtre. Merci. Je pense que, comme nous avons un délai de temps limité, ce serait bien de bouger, d'aller vers la question un peu plus difficile. Alors, arrêter les relations entre les registres et les registraires et les forces de l'ordre. Je voudrais ouvrir la discussion en parlant des registres en tant qu'entité, en tant qu'entier. En principe, coopérer avec les forces, les agences de force de... Il y a donc des questions d'attitude et d'antagonisme entre les deux. C'est important de garder un Internet sécurisé. Il y a plus de virus, plus de fraudes. Il y a beaucoup de registres qui ont participé dans les réunions avec les forces de l'ordre. Et un des principes qui en est sorti, c'est que dans beaucoup de cas, la première ligne de défense contre la fraude et le phishing et le malware, ce sont les registraires. Et nous travaillons avec ces registraires là-dessus. Cependant, nous pensons que la distinction est valable. Il faut se rappeler que les registres ont beaucoup de responsabilités pour maintenir le système de domaine de DNS à travers leurs registres. Et donc, hier, j'ai eu la chance d'écouter la discussion fascinante de l'abus sur les noms de domaine avec Amy Klemmer. Un des points les plus importants à soulever, c'est que certaines de ces propositions légales, en particulier, je pense, aux États-Unis, certainement va être inefficace, mais aussi dangereuse. Ça touche le DNS au niveau technique, au cœur technique, pardon. Et moi, je ne veux pas rentrer dans les technicalités, mais dans les détails, mais le rôle en référence de groupes techniques, les groupes techniques qui sont très experts, qui incluent Paul Vixy et un nombre d'autres gens, ont préparé un document qui signale les dangers du verrouillage des noms de domaine à travers donc les services des fournisseurs, à travers les actions contre les services de fournisseurs. Ce sujet a été encadré par le directoire et, comme je le comprends, pour demander à propos de ces relations que je pense sont très bonnes. Et je sais que de la part de mon propre registre, je sais qu'elles sont bonnes, que les relations sont bonnes, et je pense que c'est vrai pour les autres registres. Je serais intéressée de savoir s'il y a des questions de la part. De la part du bureau du directeur. Mais vous avez parlé de Paul Vixy et les autres contre le verrouillage, le blocage, l'accès du contenu des DNS. Je fais partie de ces autres personnes. Oh, j'ai oublié de vous donner le crédit. Hein. Le crédit vous est dû pour cela. Oui. Je suis Bertrand Lachapelle. Encore une fois, la séance était très importante hier. Dans cette séance sur l'abus des DNS, j'ai soulevé la question que maintenant à laquelle nous faisons tous face. C'est la suivante. Dans le système actuel, si un citoyen, disons, du citoyen d'un pays A fait un business complètement valide dans le pays A, avec un serveur qui est basé sur le pays A et en relation avec les lois de pays A, mais il a acheté un nom de domaine dans un registraire d'un pays B, où les activités ne sont pas forcément légales ou inappropriées, ou illégales ou appropriées. Les registres dans le pays B est utilisé pour prendre ce nom de domaine. Et si je pousse les choses un peu plus loin, ça pourrait être appliqué à un registre. En fait, tout ce qui est en .com ou .org ou .net, par exemple, ces registres sont basés la plupart du temps aux États-Unis, pourrait théoriquement dire que toutes les activités sur le DNS qui sont enregistrées au deuxième niveau pourraient être soumises aux lois des États-Unis. Comment est-ce que la communauté des registres se sent, qu'est-ce qu'elle sent à propos de cette évolution qui va fracturer la souveraineté des extensions d'un pays contre une autre? C'est une très bonne question et en parlant comme un avocat américain, je suis très familier avec le cas, j'aimerais bien ne pas avoir à répondre. Mais c'est en litige en ce moment aux États-Unis. C'est concevable que les tribunaux américains vont décider sur le principe de la liberté d'expression, que les forces de l'ordre aux États-Unis vont être d'accord sur ce sujet. Moi, je ne sais pas quelles sont les garanties des résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler de cela? C'est juste. Vous vous demandez comment nous nous sentons. Je pense que ce n'est pas grave hein, comment nous sentons. Nous sommes sujets aux lois de notre propre juridiction, qu'on l'aime, que l'on accepte ou pas. Il y a un tribunal aux États-Unis ou une force de l'ordre ailleurs. Il faut que je suive, que je sois d'accord. Donc, je n'ai pas vraiment. On peut en parler, on peut débattre, mais il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Il faut accepter, à moins qu'on dise quelque chose, qu'on soit contre la loi, mais je pense qu'il y a aussi des décisions, sans rentrer en détail, il y a des décisions pour les tribunaux américains, par exemple avec Point Biz, où on a vu qu'un ordre était vraiment pas juste vis-à-vis d'un registrant. Il y avait un jugement par défaut, mais le jugement... le tribunal est allé au-dessus de ce qu'elle pouvait faire, de l'autorité qu'elle avait. Nous sommes allés donc en retour au tribunal et nous avons gagné. Nous avons un remède. Je voulais quand même en parler sur ce que David a dit. Il a dit qu'il avait commencé avec une relation avec les registraires, mais je voudrais dire en premier, les registres ne sont pas dans une position unique parce que nous avons une marque à protéger. Les registraires n'ont pas toujours la même et n'ont pas besoin de protéger la marque comme nous l'avons à le faire. Nous avons à le faire. Ils ne se fichent un peu de quel TLD ils vendent. Ça leur est égal. Ça génère autant d'argent. Donc pour nous, on commence un DNS et par exemple. On a commencé New Star, on a commencé un DNS, un programme en 2006, premièrement parce que .biz était sur la liste des TLD les plus dangereux. Au moment, moi, je voulais bloquer le trafic. On voulait bloquer le trafic. Donc, notre marque est tombée et nos ventes ont tombé. Et on a vu ça comme une blague à l'époque. On a pris une décision à ce moment-là. Et nous, on avait mettre en place un programme pour supprimer le nom qui était utilisé pour du phishing. Quand on a trouvé donc le problème, nous avons mis en place une politique. On donnait aux registraires 12 heures pour qu'ils enlèvent le nom. S'ils ne le faisaient pas, nous, on le faisait. Dans certains cas, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne sont pas intéressés comme nous. Donc, nous avons enlevé ces noms, nous avons continué à retirer ces noms et on peut montrer définitivement que ça a été fait pour ces raisons-là. Nous avons tiré des tas de noms qui étaient dans les États-Unis. On n'a jamais eu un problème, on n'a même jamais eu une lettre qui nous a dit qu'on avait tort. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur ce domaine. Il y a des propositions qui ont été faites. Je veux dire pour le rapport qu'il y a aussi les propositions de ce genre, c'est ce qu'on fait. Pour se réserver les droits de retirer des noms pour ces objectifs. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus. C'est pour les registres plus grands et qui ont plus d'attention. Mais si c'est fait de la bonne façon, je sais que ça peut être fait de la bonne façon, le programme, c'est une meilleure protection pour les registrants que l'alternative.
Merci beaucoup. Donc, d'autres questions? Au sujet de ces lignes de conduite, des rapports avec les forces de l'ordre qui font régner la loi dans le domaine de l'Internet. Je crois que il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes à cette question, qui sont importantes, en effet. Oui, je crois qu'il faut être très prudent. Vous parlez très précisément de questions de sécurité, bon, de malware, de problèmes précis. Donc, Neustar ne dit pas, oui, nous allons fermer ce site, nous allons retirer ce site. Vous parlez de contenu, vous parlez de véritablement de problèmes qui posent des risques pour l'Internet. Oui, il y a des circonstances très limitées de contenu, en effet, où nous retirions, s'il y avait de la pornographie infantile, par exemple, ça, absolument, pour les enfants exploités, il y a en effet des règles très strictes aux États-Unis et, bien entendu, nous retirons ces domaines. Il y a les produits pharmaceutiques, les médicaments illégaux, de contrefaçon, qui sont évidemment retirés. Il y a des noms de domaines qui doivent être retirés dans ce cadre. Il y a également la FDA américaine, l'équivalent du ministère qui gère l'alimentation. Mais vous avez raison, ce sont des exemples très extrêmes. Il y a donc, dans le cadre de la loi américaine, en effet, les accusations de personnes infondées qui sont réprimées. Oui, nous allons passer à un autre point de notre ordre du jour et je crois que nous sommes arrivés au point où nous allons parler de notre nouveau PDG et président. Et donc, Steve a peut-être quelque chose d'autre à dire. Non, très, très bien, tout à fait, c'est le bon moment. En effet, je crois que c'est le bon moment. Allons-y donc, comme vous le savez, nous avons lancé une recherche très ouverte et demandé des idées au sujet des critères qui doivent être pris en compte et du processus pour nous trouver un nouveau PDG, dirigeant de l'ICANN. C'était hier seulement que nous avons fait ça. Oui. On travaille tellement, on ne sait plus quel jour on est. Donc, Don Chersky était à la tête du comité du directoire, du sous-groupe qui va travailler. Donc, George Sadowski gère cette recherche, ce processus de recherche, et ça doit être transparent, visible. Même au sein du directoire, nous voulons absolument que tous les membres du directoire soient au courant, informés et accès à toutes les informations pour cette recherche. Je crois que peut-être Georges va intervenir. Et nous allons lui passer un micro. Oui, merci beaucoup Steve. Oui, vous l'avez bien dit. Absolument, quelques points supplémentaires. Nous aimerions entendre parler de vos opinions en ce qui concerne le processus et quelles sont les caractéristiques d'un nouveau PDG. Nous avons donc une adresse qui est la suivante, ceosearch2012@icann.org. Envoyez-nous, s'il vous plaît, vos opinions pour nous indiquer ce que vous recherchez comme qualité chez un nouveau PDG de l'ICANN. Si vous êtes à cette réunion, si vous êtes en ligne, si vous avez une opinion, exprimez-la, s'il vous plaît. Très bien. Donc, merci beaucoup, George, de cette intervention. Kistrezek, j'aimerais dire, donc, j'étais dans la réunion hier. Dans la réunion publique, je crois qu'il y a une très bonne séance qui s'est passée hier, que nous avons beaucoup parlé. On a entendu parler de beaucoup de points de vue positifs qui se sont élevés de la communauté. Et il me semble que le processus est déjà lancé, il continue, il se poursuit. Et nous allons avoir une recherche qui va devenir de plus en plus étroite avec une courte liste. Et je crois que c'est important que nous continuions à entendre parler de ce que vous recherchez comme qualité chez un PDG de ICANN. Où j'aimerais souligner ce qu'a dit Georges. On a besoin, en effet, de retour. On ne recherche pas des questions. Si vous avez une question sur quelque chose au sujet du nouveau PDG, eh bien, ce n'est pas le bon endroit pour l'envoyer. On cherche des opinions parce que depuis hier, nous avons reçu non pas des opinions, mais nous avons reçu des questions. Et je crois donc que nous recherchons beaucoup de vos contributions. Donc contribuez, s'il vous plaît, à ce sujet en utilisant l'adresse que je vous ai donnée. Donc, je crois que maintenant, ces contributions doivent arriver. Et ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Oui, eh bien, je suis devant vous. Et moi, j'aimerais dire que nous souhaitons que le prochain PDG soit quelqu'un qui soit quelqu'un qui a beaucoup de compétences commerciales, un manager, un homme d'affaires qui soit en mesure d'assurer la stabilité de l'ICANN et qui soit responsable, qui soit un bon manager, un bon gérant d'entreprise. Parce que ça n'a pas toujours été évident de par le passé. Je crois que tous les PDG de l'ICANN, je les ai tous connus, puisque j'étais là au début. Et ça a été très intéressant de voir comment ils ont géré les choses. Des bonnes expériences, mais aussi certaines expériences étaient mauvaises. Je me rappelle, au début de l'ICANN, il y avait un PDG qui a supposé que l'ICANN avait un pouvoir mondial sur tout, même sur les noms de domaine des pays, et qui s'est arrogé un pouvoir qu'il n'avait pas. Et cela, c'était très, très négatif pour l'association. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse son sujet, qui connaisse l'histoire d'ICANN, l'historique d'ICANN, et quelqu'un qui ne fasse pas de bévues de ce type, quelqu'un qui ait l'expérience de l'aspect tout à fait unique et spécifique de l'ICANN, qui n'est pas un organisme facile à gérer. C'est une organisation quasi-gouvernementale. C'est quasiment une agence gouvernementale, mais pas exactement. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est très difficile à définir. La gouvernance d'une administration technique de l'Internet est tout à fait complexe et doit être effectuée mondialement, donc, au niveau international. Donc, je crois qu'il faut trouver quelqu'un qui comprenne bien le sérieux de la tâche à accomplir. Et voilà les idées que j'aimerais vous remettre aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, Chuck Holmes de VeriSign. Bon, je crois qu'on ne peut pas répéter qu'il faut un leader, il faut un leader qui comprenne l'aspect multipartite, multi-acteur de l'ICANN et qui va le soutenir à long terme et qui va le soutenir dans la collectivité, qu'il y croit, parce que cette gouvernance de l'Internet est extrêmement importante pour nous. C'est tout à fait essentiel au niveau international. Il y a beaucoup de débats et pour moi, le critère principal, c'est non seulement un engagement verbal sur le système multipartite que nous connaissons à l'ICANN, mais quelqu'un qui y croit et qui le soutient du fond du cœur. Allez-y, Ken. Oui, merci. Je suis très, très inquiet de tout cela. Il y a une transition. Je crois comprendre que nous avons un calendrier de transition et au milieu de 2012, Rod va nous quitter. À un moment si important pour l'ICANN au milieu d'un processus si ardu, et je crois que ça va être très difficile pour un nouveau PDG d'arriver à ce moment-là, un moment critique pour l'ICANN. Et il va devoir s'y mettre tellement rapidement. Donc j'espère que l'ICANN va engager et va avoir un plan de transition, parce que je crois que le nouveau PDG doit avoir la possibilité d'arriver tôt, de se former et d'être formé, informé, avant même que Rod s'en aille, parce que sinon on va avoir un vide, une vacance du pouvoir. Un des moments les plus critiques pour l'ICANN, il faut que ce soit un administrateur solide, cet homme. Et je crois que il doit comprendre à quel point il faut aider le monde, il faut avoir des activités de soutien pour l'accès à l'Internet. Je crois que les compétences organisationnelles doivent être vraiment du plus haut niveau chez cet homme ou cette femme. Merci.
I just want to ask a question to the...
Oui, merci beaucoup. J'aimerais donc poser une question à la dernière personne. Pourquoi est-ce qu'il pense que les compétences administratives seraient plus importantes que les capacités à tendre la main, être un ambassadeur de l'ICANN, à communiquer au sujet de l'ICANN? Eh bien, je vais vous le dire avec plaisir. Il me semble que je comprends bien votre point de vue, mais il me semble que le processus doit être respecté. Je sais que Rod a quitté la salle. Je crois qu'il a engagé un process. Premièrement, je crois qu'un PDG ne travaille pas toujours au quotidien, à la marche quotidienne d'une entreprise. Je crois que je ne sais pas si on peut avoir un PDG qui soit à des centaines ou des milliers de kilomètres d'un siège. Je crois que c'est très important d'être présent, d'avoir un visage, et si on veut gérer une administration. Et je pense également que cela a manqué, une certaine distance. Et je sais que la responsabilité de gérer la communication au niveau du nouveau processus GTDLT est absolument essentielle. Et il me semble que, personnellement, je crois que la transition doit être gérée de près. Et cela nous permettra de faire avancer la situation. Donc, honnêtement, je dois dire que le personnel a extrêmement trop de travail et a dû prendre des décisions exécutives absolument importantes, parce que quelqu'un qui se trouvait à des dizaines d'heures, à des fuseaux horaires différents, ne prenait pas les décisions qu'il aurait dû prendre. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Il y avait trop de distance entre le PDG et le staff. Et oui, je crois que vous parlez en effet du calendrier où Rod va nous quitter, où le nouveau PDG va arriver. Vous avez parlé des problèmes de stabilité du personnel, problèmes organisationnels. Au 1er juillet 2012, en plein milieu du processus d'évaluation du nouveau programme GTDLD, je crois que le directoire en a parlé avec le PDG, a parlé du concept de continuité du personnel, et il y a une séparation des rôles également qui existe. Peut-être qu'on ne la voit pas dans ces forums, mais Kurt Pritz, par exemple, est très visible au niveau de certaines décisions, et on a l'impression que personne d'autre n'y travaille, mais il y a une séparation qui existe, et Kurt travaille beaucoup à cette séparation en ce qui concerne la concentration sur le développement des lignes de conduite. Nous avons également un CEO à Cram, et donc ce COO s'est concentré à sa tâche sur tous les dossiers de demande. On ne dépend pas seulement de Rod, il n'est absolument pas le seul homme qui puisse gérer la situation des GTDLD. Donc on va pas avoir de changement abrupt à cause de son départ dans toute l'équipe de direction de l'ICANN. Oui, eh bien, ma question à la communauté est la suivante. Qui devrait être le visage de l'ICANN au niveau international? Le président du conseil du directoire, le PDG? Je pose la question, parce qu'en Asie et même aux États-Unis, dans les grandes entreprises, les Fortune 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, les plus riches, eh bien, le président du conseil d'administration ne se cache pas derrière le CEO. Et vous êtes très beau, monsieur Crocker, docteur Crocker. Donc je crois que vous devez simplement plus vous déplacer pour représenter l'ICANN. Eh bien, nous continuons à y réfléchir avec Judith. Oui, Chuck. Oui, une bonne question, c'est absolument intéressant. Oui, très brièvement, je crois que ça dépend des compétences des deux postes dont vous parlez. Et je ne sais pas si ça doit être l'un ou l'autre. Il faut se baser sur les compétences de chaque personne et il faut que la personne ait les bonnes compétences et les utilise à bon escient et à fond. Donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre heure de discussion et je crois que ça a été un très bon débat. J'apprécie beaucoup le temps et les efforts durant cette séance pour réfléchir à l'avenir et l'envisager pour que tout se passe sans heurts l'année prochaine. Et j'aimerais remercier au nom du directoire. Nous essayons d'organiser ces séances pour arriver au cœur même des problèmes clés qui vont se poser et qui se posent. Et je crois que nous avons beaucoup avancé cet après-midi. Je vous remercie.